RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Clotilde Dumais.
Bonsoir à tous. À la une de cette édition, un nouveau coup de pouce pour les automobilistes. Le barème de l'indemnité kilométrique va être relevé de 10% pour faire face à la hausse des prix des carburants. Détail dans un instant. Dans l'actualité également, le business des EHPAD privés dénoncé dans un livre apparaît demain. Décryptage dans ce journal. Et puis la génération JO toujours en cours de construction. La semaine olympique se déroule actuellement dans les écoles à 2 ans des Jeux de Paris. C'est donc une nouvelle aide qui s'ajoute à l'indemnité inflation de 100 euros déjà distribuée à 20 millions de Français. Jean Castex a annoncé cet après-midi le relèvement de 10% du barème de l'indemnité kilométrique pour faire face à la hausse des prix des carburants. Plusieurs options étaient étudiées par le gouvernement, mais c'est donc ce dispositif ciblé qui a été retenu, Mathieu Limongi.
Au total, 2,5 millions de foyers pourraient être concernés par la mesure qui devrait être officialisée dès cette semaine, selon le chef du gouvernement. Alors concrètement, cette indemnité kilométrique, elle permet aux ménages imposés qui utilisent leur véhicule dans le cadre de leur travail de percevoir une compensation pour couvrir ses frais de déplacement. Une compensation calculée selon un barème fiscal, un barème donc qui sera rehaussé. Avec ce dispositif, le gouvernement veut soulager les travailleurs qui roulent beaucoup, comme les aides à domicile ou encore les commerçants. Toutefois, la mesure ne concerne que les personnes salariées et qui paient l'impôt sur le revenu. De quoi susciter les premières critiques, notamment du côté de l'association Famille Rurale qui dénonce une mise de côté de nombreux ménages. Et sur les autres pistes comme la baisse des taxes, le gouvernement se veut intransigeant. Non, répond Jean Castex, c'est une mesure trop chère et pas assez ciblée sur les personnes dans le besoin.
Voilà donc pour la réponse du gouvernement face à des prix qui ont encore battu des records la semaine dernière. 1,65€ le litre de gasoil en moyenne d'après les dernières données publiées par le ministère de la Transition écologique. Nous sommes en train d'écraser la vague Delta et concernant Omicron, nous allons atteindre le pic dans quelques jours. Déclaration du ministre de la Santé, Olivier Véran, ce matin sur LCI. Pour le moment, 393 personnes sont décédées du Covid-19 en 24 heures. C'est le nombre de décès quotidiens le plus élevé enregistré au cours de cette dernière vague de contamination. Un bilan qui mériterait davantage d'attention, d'après Michael Rochois, médecin généraliste dans le Pas-de-Calais et membre du collectif du côté de la science.
Peut-être qu'on est lassé, en quelque sorte, et que ça intéresse moins de dire il y a 200 morts. Les gens disent oui, bon, il y a 200 morts. Les décès, c'est un paramètre qui est important, qu'il faut prendre en compte. À aucun moment, le gouvernement ne formule d'objectif pour dire, bon, si on dépasse 300 décès par jour pendant une semaine, alors on prendra telle mesure supplémentaire parce qu'on sait qu'il faut réduire parce qu'on veut pas aller au-delà. Mais même 300, je veux dire, c'est hallucinant. On peut dire, si on dépasse 100 décès par jour, on prend des mesures supplémentaires. Si on est en dessous, alors on relâche un peu les mesures. C'est comme ça qu'on gère une pandémie, c'est avec des objectifs et des mesures qui sont prises en fonction des objectifs et des seuils, quoi. Pas n'importe comment en disant, bon, bah, il y a 300 décès, bah, voilà. Et puis, demain, il y en aura peut-être 400. Et puis, ça finira par s'arrêter. Oui, ça finira par s'arrêter. Mais, pour les gens qui décèdent, ça s'arrête plus vite.
Et pour le moment, la France déplore plus de 129 000 décès à cause du Covid-19 et plus de 30 000 patients sont actuellement hospitalisés. Le cap a été franchi aujourd'hui. C'est une première depuis le mois d'avril. Le livre ne sort que demain, mais il fait déjà beaucoup réagir. Dans Les Fossoyeurs, paru chez Fayard, le journaliste indépendant Victor Castanet enquête sur le business des maisons de retraite privées, et notamment sur Orpea, le numéro 1 mondial du secteur des EHPAD et des cliniques. Il décrit un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents sont rationnés pour améliorer la rentabilité, alors même que les séjours sont facturés près de 6 500 € par mois pour une chambre d'entrée de gamme à Neuilly-sur-Seine, d'après l'auteur. Mais Benoît Gaudiard estime qu'il faut tout de même faire attention à la particularité de ces établissements privés qui ne représentent que 30% de l'ensemble des EHPAD. Il est professeur agrégé en sciences médico-sociales à l'université Savoie-Mont-Blanc.
Il y a trois acteurs en fait qui financent la prise en charge dans un EHPAD. Vous avez l'assurance maladie qui paie la partie soins. Après, vous avez un forfait dépendance qui est pris en charge par le conseil départemental. Donc ça, c'est des dépenses qui sont liées à l'accompagnement de la perte de dépendance des personnes. Et puis, vous avez le tarif hébergement qui correspond à l'administration générale, à l'accueil hôtelier, à la restauration, etc. Et en effet, c'est sur ce dernier tarif hébergement que se cristallise depuis un certain nombre d'années certaines pratiques d'opérateurs privés lucratifs, puisque c'est sur ce tarif hébergement que vous avez une liberté de fixation de prix. vous avez une grande variabilité des prix, des prestations, et donc il y a aujourd'hui en effet des choses qui sont pointées dans ces structures privées lucratives, et je pense que c'est particulièrement pointé par rapport aussi au coût de prise en charge. C'est-à-dire que quand vous avez des structures privées lucratives qui déjà en 2007 proposaient des prix moyens de 82 euros par jour, quand dans les autres secteurs on est aux alentours de 50 à 60 euros, forcément la question de la qualité de la prise en charge et aussi de l'accompagnement des personnels se pose de manière plus sensible.
Et en tout cas, avant la sortie du livre de Victor Castanet, le titre Orpea a dévissé de plus de 16% en bourse. La direction de l'entreprise conteste formellement l'ensemble des accusations. Devant les députés cet après-midi, Olivier Véran a annoncé avoir demandé à la ministre déléguée en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, de saisir Orpea pour avoir des réponses et potentiellement diligenter une enquête de l'inspection générale. Le fonds d'indemnisation des victimes d'abus sexuels dans l'Église vient de franchir le cap des 20 millions d'euros. C'était le premier objectif fixé par l'épiscopat en novembre dernier. D'après Gilles Vermont-Desroches, le président de ce fonds alimenté par les évêques et les diocèses, une première enveloppe de 5 millions d'euros sera affectée à l'accompagnement financier des victimes et un autre million à des démarches de prévention et de mémoire. L'Assemblée nationale vient d'adopter définitivement la loi interdisant les thérapies de conversion. Le texte porté par la majorité présidentielle crée un nouveau délit dans le code pénal punissant de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende les pratiques visant à imposer l'hétérosexualité aux personnes lesbiennes, gays, bi ou transgenres. Mais il faut aller au-delà de la loi pour mettre un terme à ces pratiques au retentissement psychologique durable, d'après Benoît Berthe, le porte-parole du collectif Rien à guérir, qui rassemble des rescapés de thérapie de conversion.
Toutes les religions ont eu des dérives qui ont permis des thérapies de conversion, pas que la religion chrétienne, la religion musulmane aussi, avec certaines dérives, les roquias, les exorcismes qu'on a pu en découvrir à Montreuil et à Paris. Mais on a vu avec les enquêtes et aussi en accueillant dans notre collectif des personnes transgenres qu'il y a énormément de thérapies de conversion médicales aussi qui existent et d'autres moins connues, les sociétales, dans les familles, dans les groupes, dans les clubs de sport par exemple, qui peuvent arriver de manière insidieuse avec une parole, des oppressions, une pression sociale qui encourage les personnes à nier ce qu'elles sont profondément. Tout le monde doit se mettre au travail, les associations, les personnes, pour que dans les institutions religieuses, les institutions médicales, dans les familles, ce type de propos, ce type de comportement et d'actes ne puissent pas avoir lieu. La loi ne peut pas faire tout le travail et c'est à nous, et dans nos églises aussi, de prendre le relais et d'éveiller les consciences sur ce sujet.
Avec cette nouvelle loi, la France rejoint l'Allemagne et Malte qui ont d'ores et déjà légiféré sur le sujet, tout comme prochainement la Belgique, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Le Parlement qui doit aussi adopter dans la soirée le projet de loi sur la protection des enfants. Le texte prévoit notamment d'interdire à l'accueil des mineurs à l'hôtel, de proposer aux 18-21 ans passés par l'aide sociale à l'enfance la garantie jeune, mais aussi un droit au retour à l'ASE si besoin. Les bruits de bottes se rapprochent doucement de Kiev. Les forces armées russes ont lancé une série de manœuvres à proximité de l'Ukraine et en Crimée annexée. Il s'agit d'une opération interarmée qui implique 6000 hommes, des avions de chasse et des bombardiers. L'annonce de ces exercices intervient quelques heures après la décision des États-Unis de mettre en alerte plus de 8000 militaires qui pourraient rejoindre les forces de l'OTAN rapidement. Alors face à la montée des tensions, le pape François appelle demain à une journée de prière pour la paix en Ukraine. Une façon d'attirer l'attention sur la situation à l'Est, comme l'explique Mgr Antoine Herouard, évêque auxiliaire de Lille et représentant des évêques français au sein de la Commission des épiscopats de l'Union européenne.
Je pense que l'appel du pape, d'abord il y a la force même de la prière, hein, puisqu'il appelle à prier pour la paix, et donc je pense que c'est important que les chrétiens portent cette préoccupation. Et à travers cela, je pense que c'est une manière aussi pour sensibiliser les citoyens européens, enfin en tout cas ceux qui entendront cet appel à la prière, pour se dire que la situation en Ukraine est quelque chose de très grave, hein, et qui peut avoir des conséquences majeures, et qu'on ne peut pas prendre ça à la légère, mais qu'il faut bien trouver les chemins pour dialoguer, pour dépasser la crise et pour construire un peu la paix.
Et en attendant, Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Vladimir Poutine vendredi. En cas d'agression de la Russie en Ukraine, la riposte sera là et le coût sera très élevé, a d'ores et déjà prévenu le président français. Scotland Yard s'empare du dossier. La police britannique ouvre une enquête sur plusieurs fêtes qui auraient été organisées à Downing Street pendant les confinements. Les enquêteurs veulent savoir s'il y a eu de potentielles violations des règles liées au Covid-19. Depuis plusieurs semaines, le Premier ministre est dans la tourmente face aux révélations en cascade concernant des événements qui auraient eu lieu au sein de sa résidence. Nous sommes à très exactement 913 jours du coup d'envoi des JO de Paris. Et dans les écoles, on se prépare déjà à l'événement. La sixième édition de la semaine olympique et paralympique a débuté hier. Au programme 30 minutes d'activité physique par jour pour découvrir différents sports et disciplines paralympiques. À l'école Péresque de Toulon, Domiti Courtemanche a participé à une séance avec les élèves.
Tu t'appelles comment ?
Aïmen Amdouni, j'ai 13 ans.
Bonjour.
Amélie, 13 ans.
Bonjour. Lola, 13 ans.
Là, si je te dis tout de suite que tu vas au JO et que tu peux choisir ton sport, qu'est-ce que tu choisis exactement ?
Peut-être du volleyball ou du basket ?
Natation et athlétisme.
Bah, je vais en choisir deux et je vais dire le saut en hauteur et la course à pied.
Alors, pourquoi tu choisirais spécialement ces sports-là ?
C'est bien, c'est des sports d'équipe, des sports où tu as besoin d'un peu réfléchir ta tactique, trouver la bonne faille pour attaquer.
Natation, j'en fais depuis à peu près 8 ans. Pour l'athlétisme, j'adore la vitesse. Surtout la compétition, en fait.
J'aime beaucoup sauter. Et je trouve que le saut en hauteur, c'est quelque chose que j'adore faire. Toujours sauter plus haut et essayer de faire le meilleur record.
C'est beaucoup d'entraide aussi, parce que je sais que le sport, à travers ça, ça peut aider beaucoup de gens, que ce soit pour des épreuves difficiles ou pas. Et en plus de ça, on peut faire de très belles rencontres, comme j'ai déjà fait. Je sais qu'on peut se faire plein d'amis.
Ce serait un rêve pour toi d'aller au JO ?
Bah oui, comme beaucoup de gens, j'imagine. C'est montrer à tout le monde tout ce que tu peux faire et essayer de te dépasser pour être le meilleur.
Franchement, ouais, ça a l'air très très sympa. Voir tant de gens qui te regardent faire des choses incroyables, qui te voient te dépasser, tout le monde qui essaie de donner le plus d'eux-mêmes, c'est incroyable.
Bah bien sûr, c'est l'une des plus grandes idées folles qu'il faudrait faire. Si on peut, je pense qu'il faudrait y aller parce qu'on n'a qu'une seule vie, alors franchement, il faut foncer. Hein.
Voilà, c'est sûrement d'ailleurs ce que s'est dit Rafael Nadal aujourd'hui à l'Open d'Australie. L'Espagnol qui s'est qualifié en demi-finale face à Denis Shapovalov. En revanche, Gaël Monfils n'a pas réussi à créer l'exploit. Il s'est incliné en 5-7 contre Matteo Berrettini. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur RCF.